Je vous salue.
Voici la première question. Faut-il, pour évoluer spirituellement, s'inscrire dans une école initiatique? Et si oui, comment la choisir?
Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau dialogue que nous entretiendrons, vous et moi. Et comme je le dis à chaque fois, et comme je vais donc encore une fois le répéter, c'est surtout avec votre cœur que je veux dialoguer, plus qu'avec les mots, plus qu'avec l'intelligence et toutes les bonnes ou belles idées que je vais pouvoir mettre dans votre tête. C'est surtout avec votre cœur que j'entends dialoguer. Ce qui fait que la seule richesse que je vous demande de venir chercher ici, dans ce dialogue, ce n'est pas la richesse de l'intelligence, ni la richesse de l'enseignement, comme je le dis si souvent, mais tout simplement la richesse d'un acte nouveau, qui est de s'accepter comme étant un homme ou une femme différente désormais. C'est-à-dire, lorsque l'on me rencontre, ou lorsque l'on écoute ma parole, ce que j'essaye surtout de faire comprendre à l'individu, c'est de prendre la décision d'être différent, demain d'être nouveau. C'est pour cela que je ne veux pas m'apesantir ni sur l'enseignement, ni sur de longs discours qui peut-être seraient très instructifs pour l'âme humaine. Je laisse ce travail à d'autres que moi. Ce qui m'a été donné comme travail, et le groupe qui est aussi avec moi, s'est chargé du travail de faire prendre la décision aux hommes. Rien de plus. En tout cas aux hommes que nous rencontrons. Il n'est donc pas question de faire évoluer magiquement les hommes, il n'est pas question pour nous non plus de travailler sur leurs chakras, comme certains des personnes qui viennent régulièrement attendent que cela soit fait. Il n'est pas question pour nous de faire un travail occulte, mais un travail très concret, et ce travail concret, c'est vous-même qui le représentez, avec votre mental. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de vous faire prendre une décision. La décision demain d'être différent, de dire non à ce qui hier vous faisait encore plier ou souffrir, et de dire oui à ce qui demain sera votre grandeur et votre joie. Et en fait, un maître spirituel ou un initiateur ou un guide, appelez-le comme vous voulez, ce n'est rien de plus que celui qui fait dire oui, mais oui de toute l'âme, de tout le cœur de l'individu, un oui exclusif et absolu. Le oui qui fait que l'individu met à partir de ce moment-là les pieds dans une foi complète, dans une détermination complète, et que rien ne pourra lui faire retourner sa veste ou lui faire retrouver l'ancien chemin. La question qui m'est posée, qui est donc en rapport avec l'évolution spirituelle, l'évolution que l'on peut faire dans une incarnation physique grâce à divers éléments comme les églises, les temples, les écoles. La question qui m'est posée, en fait, se résume à ce que je viens de dire. Aucune école, quels que soient ses instruments, quelle que soit sa richesse, quels que soient tous les enseignements qu'elle possède, aucune école ne peut faire ce que l'individu ne fait pas lui-même, c'est-à-dire dire et prononcer ce oui absolu au changement. Une école peut apporter un grand nombre d'informations, peut aussi offrir un grand nombre d'énergie par des baptêmes qui se succèdent en niveau initiatique pour les écoles qui sont structurées à différents degrés ou tout simplement par le baptême connu dans l'Église catholique. Et en fait, malgré tous ces instruments qui sont en rapport avec le corps éthérique et le corps mental, et qui devraient enrichir formidablement les deux, malgré tous ces instruments, il se trouve que des individus n'arrivent pas à se transformer. Ils apprennent énormément de choses, ils ont l'impression même d'avoir développé certains chakras, mais ils ne sont pas pour autant devenus davantage des êtres d'amour ou de pardon. Ils ne sont pas pour autant parvenus à une certaine communion de l'âme qui leur fasse sentir que véritablement leurs efforts sont couronnés de succès. Donc, quel que soit le matériel des écoles, et quelle que soit même la performance de ce matériel, ce qui compte avant tout, c'est lorsque le disciple, ou le disciple potentiel, lorsque celui-ci se trouve entre les colonnes du temple, et quel que soit le temple, ou quel que soit l'homme, le gourou par exemple, que cet homme suit en pensant que là est son temple, il faut qu'au moment où il se trouve entre les colonnes, qu'il dise un oui absolu à la spiritualité. Et je suis désolée de le dire ainsi, mais les hommes entrent dans le temple, dans la cour préparatoire du temple, parce qu'en fait les temples extérieurs, c'est-à-dire les temples terrestres, ne sont que les cours préparatoires du temple céleste et du temple intérieur qui se trouve dans l'âme de l'homme. Les hommes franchissent donc ce temple préparatoire comme s'il s'agissait de rentrer soit dans une bibliothèque, pour ceux qui ont envie de s'instruire, et pour ceux qui ont un mental concret suffisamment développé pour lire tous les livres, soit ils y rentrent comme dans une pièce à communion, pensant que là, ils vont y trouver des frères et des sœurs très radieux, les bras ouverts, pleins d'amour, et que dans ce grand partage, leur vie va être transformée grâce à la lumière de l'amour. Et que reste-t-il pour le temple lui-même à ce moment-là? Eh bien, il ne reste rien. Leur esprit a tout accaparé, soit la culture, soit la chaleur humaine que composaient les différents piliers du temple, les différents disciples du temple. Et en fait, il ne reste rien à donner au temple. De là vient une grande partie du malheur des temples et des églises et des écoles initiatiques. C'est que les hommes viennent pour prendre ce qu'il y a dans la bibliothèque ou prendre ce qu'il y a dans le cœur des fidèles, mais ils ne viennent pas pour s'abandonner et pour donner. Donner, quand je dis ce mot-là, je ne veux pas dire qu'il s'agit de donner aux gens qui sont en présence, que ce soit dans le rituel ou que ce soit dans l'acte de foi de l'Église concernée. Il ne s'agit pas de donner à ceux qui sont là. Il s'agit de se donner soi-même, comme si l'on vidait extrêmement la coupe de la personnalité, se donner soi-même, se donner au cosmos. Et de ce fait, le cosmos pourra remplir chaque fidèle venu ainsi se recueillir dans le temple. Que ce soit en passant par la méthode de l'enseignement qui ressemble au Raja Yoga, où donc on utilisera énormément le mental parce que l'étude y est précieuse, ou que ce soit par la contemplation, parce que tel ou tel groupe utilise énormément ou la prière, ou la méditation, ou d'autres formules y ressemblant. Lorsque l'on est entre les colonnes, il faut avant tout être conscient de l'acte que l'on commet. Beaucoup d'individus entrent entre les deux colonnes tout simplement parce qu'ils sont attirés par la lueur, exactement comme un papillon est attiré par une chandelle. Tout ce que l'individu sait, c'est qu'il cherche quelque chose. Il ne sait pas quoi. Il ne sait pas comment cela s'appelle. Il ne sait pas comment il doit s'y prendre pour le chercher. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui bouge et qui lui demande d'avoir la réponse à toutes les questions. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'amour? La vérité? Le cosmos? Etc. Et en faisant le tour de la Terre, ou tout simplement le tour de sa ville, l'homme qui est habité par ce genre de questions cherche une note qui semble contenir les réponses. Et comme un papillon est attiré par une faible lueur, l'homme va être attiré par les écoles, surtout celles qui auront hissé le pavillon sur la rue et qui seront donc très accessibles. Une fois que l'individu aura déposé sa demande d'entrée, généralement on s'aperçoit qu'il est reçu, soit en visiteur, soit tout simplement en tant que candidat pour passer entre les colonnes. Mais une fois qu'il est accepté, Une fois qu'il a véritablement franchi les colonnes, une fois qu'il est devenu un frère de l'école initiatique ou du temple initiatique, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Bien sûr, tant qu'il était sur les parvis, comme l'on dit, tant qu'il était donc dans la rue, tant qu'il était dans le torrent, tant qu'il était à l'extérieur, dans le monde des profanes, il était un homme intéressant parce qu'il était un autre homme parmi tant d'hommes, mais il avait une différence. Il cherchait quelque chose. Puis, dès qu'il a franchi les colonnes, certain que tout se trouve dans ces colonnes, alors il s'assoit lourdement, il oublie cette dimension qui était en lui et qui le poussait à la recherche, il oublie cette flamme qui lui donnait le désir de la quête, qui lui donnait la curiosité de trouver. Il oublie toutes ces choses et se dit « je n'ai plus qu'à passer mon temps à lire ou à méditer ou à faire tel mantra ». Et voilà que, alors qu'il existait un homme plein de vie, plein de quêtes, plein d'avenir, à ce moment-là se dresse un disciple qui n'a plus de flamme et qui n'a plus d'avenir, tout simplement parce qu'il s'est assis. Il s'est assis à cause de quoi? Tout simplement à cause du comportement psychologique qui caractérise l'homme. L'homme qui est certain d'avoir tout trouvé, même s'il ne sait pas encore, parce qu'il n'a pas encore tout lu ce qui se trouve dans la matière de l'école initiatique. Mais il est certain que la vérité s'y trouve. Alors il se dit, il ne me suffit plus que d'être simplement organisé, et chaque jour je vais lire un petit peu, ou chaque jour je vais méditer un petit peu, et puis j'atteindrai tel grade, puis tel autre grade, et tout ira tranquillement, comme si l'homme se trouvait porté par un courant. En fait, quand l'homme se trouve à l'intérieur du temple, c'est là que l'on attend de lui qu'il attise encore plus sa flamme, encore plus sa curiosité, encore plus son élan. Au lieu de simplement s'asseoir avec les autres frères et sœurs, discuter de tout et parfois de rien, quelquefois faisant allusion à une loi étudiée, mais de toute manière se réconfortant davantage dans la chaleur humaine plus que dans la quête de Dieu, dans la quête de la vérité. Donc, ce que je demande pour tous ceux qui sont, à l'intérieur d'une école, ou pour tous ceux qui prévoient d'y entrer sous peu, ce que je leur demande, c'est de retrouver en fait la flamme de leur première jeunesse. Et quand je dis première jeunesse, c'est-à-dire lorsque l'âme cherchait et qu'elle ne savait pas que la vérité existait quelque part. C'est ce feu-là qui compte. C'est sur celui-là que comptent tous les maîtres et tous les guides pour pouvoir amener le disciple quelque part, pour pouvoir lui faire entrevoir la vérité. S'il n'y a pas cette dynamique de la quête, automatiquement l'individu devient un wagon qui s'accroche à d'autres wagons. Mais le fait d'aller quelque part ne dépend donc plus du wagon, mais de la locomotive, car seule la locomotive possède le moteur et connaît la route. Et c'est parce que de nombreux temples, en fait, se sont structurés par de nombreux wagons, que maintenant le temple ne va plus nulle part. Ce qui ne veut pas dire que tous les temples sont ajoutés à la poubelle et que l'on doit tourner le dos à tous ceux qui ont existé. Il faut tout simplement retrouver la foi et la dynamique de cet homme qui cherchait sans savoir que la vérité existait. Et donc il était prêt à l'inventer s'il le fallait. Il est tragique de voir à quel point les disciples commencent bien et terminent mal juste au moment où on leur met tout dans les mains pour pouvoir devenir meilleurs. Et c'est en se rappelant qu'il faut dire ce oui absolu à la spiritualité, à l'évolution, au changement, c'est en se rappelant qu'il faut dire ce oui absolu que l'on ne risque pas de tomber dans la tiédeur. Qu'est-ce que ce oui absolu ? Comme je l'ai dit, et je vais le préciser, lorsque l'on se trouve entre les colonnes, il faut être conscient de l'acte que l'on commet. On ne vient pas simplement voir s'il fait beau dans ce groupe-là, combien de pages se trouvent dans les livres, si ça correspond à ce que l'on a déjà lu, s'il préfère Jésus ou Koutoumi, dans ce cas-là où on sera des leurs ou pas des leurs. Mais il faut que l'on entende la chose avec nos propres oreilles. Il ne s'agit pas donc de faire comme l'on fait lorsque l'on va dans les magasins, regarder la marchandise qui s'y trouve, la tâter, la sentir, et puis dire « non, finalement, je n'achète rien » et repartir. Un temple, ce n'est pas une boutique, bien qu'aujourd'hui, je le concède bien sûr au jugement humain, le comportement de certains temples amène les chercheurs à penser de la sorte. Cela les induit dans le fait de penser que l'on va pouvoir rentrer, tâter, renifler, et si cela ne convient pas, que l'on pourra sortir. Tout simplement parce que ces temples-là, certains, s'offrent comme étant des portes ouvertes. C'est donc la conclusion handicapante que l'homme peut faire parce que ces temples-là ont choisi de faire grand bruit dans la rue pour faire entrer un maximum d'individus entre les colonnes. Tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Mais ce n'est pas parce que ces temples-là font grand bruit, même s'ils ne sont que des petits temples, c'est-à-dire des temples qui ne peuvent pas amener à l'illumination ni même à l'évolution, mais qui de toute manière donne des renseignements, des informations, rappelle certaines lois, et cela est fort utile. Ce n'est donc pas parce que ces temples-là font grand bruit qu'il faut les traiter comme des boutiques. Il faut toujours agir avec intelligence et intégrité. Et il faut avant tout se rappeler que, quel que soit le temple dans lequel on entre sur la terre, il faut vivre cet événement comme si l'on rentrait dans le temple qui est au ciel. Parce qu'en fait, quoi que vivent le corps et la personnalité en bas, dans un temple précis, entouré d'un certain nombre de fidèles précis, qu'ils soient dignes d'appartenir au temple ou pas, comme cela se trouve dans l'organisation de certaines écoles, il y a les dignes et les indignes. En fait, il faut savoir que, quoi qu'il se passe sur la terre, on peut vivre quelque chose de tout à fait différent dans les cieux intérieurs. Donc l'âme peut se projeter dans un autre univers. Et il ne faut pas croire en cela que je parle de dédoublement, il s'agit tout simplement de concepts. Tandis que mon corps entre dans un temple qui est petit, qui ne contient aucun initié, qui ne contient que quelques vérités. Mais tandis que j'entre dans ce temple, je peux faire entrer mon âme dans le temple de Dieu. Du moment que, dans l'âme, j'en ai le désir, j'en entretiens la vision et j'en accomplis le geste. Il ne faut pas croire que les petits temples n'intéressent pas les maîtres et n'intéressent pas le bon Dieu. Il ne faut pas imaginer que parce qu'un tel, finalement, est plus commercial que spirituel, il n'a aucune incidence dans le devenir de la planète et des hommes. Il faut savoir que tout individu qui transporte une parole, même si elle ne représente qu'un tiers de la parole d'un maître ou l'entier de la parole d'un maître, étant donné l'incidence que ce tiers ou que cet entier pourra avoir dans la vie de l'homme, le maître regarde chacune des écoles, chacun des temples. Ce qui fait que chaque individu qui entre, même s'il entre dans un temple qui est petit et sans envergure, sans initié, sans lumière, avec simplement la bonne volonté et quelques livres. Donc si un homme entre dans ce genre de temple où il semble que son avenir ne puisse pas être brillant et que son évolution ne puisse pas s'y accomplir, étant donné que le maître regarde chaque temple, même les plus éloignés de Shambhala, on peut être certain que cet homme est remarqué, regardé à ce moment-là par la loge des maîtres. Et si il en est digne, à ce moment-là se passe un rituel pour son âme. Et non pas simplement le rituel que font les participants sur la terre pour sa personnalité. Des guides, aidés en cela par les anges, car les anges ont le devoir, et là est leur principal travail, les anges ont le devoir de participer à tous les rituels. En fait, un ange représente l'âme d'un rituel, que ce soit le rituel de la messe, que ce soit un rituel de guérison, que ce soit un rituel maçonnique, que ce soit un rituel rosicrucien, peu importe. À partir du moment où les énergies sont ascensionnelles et se dirigent vers le cosmos, c'est l'ange qui représente l'âme du rituel. Et sans l'ange, on pourrait dire que le rituel n'aurait pas lieu. Il n'y aurait pas de pont, en fait, entre l'énergie cosmique et l'homme qui se trouve sur la Terre. Un homme ne peut rien faire de par son propre pouvoir. Quand il s'ouvre face à l'univers, quand il essaye de s'unir au cosmos ou d'invoquer le cosmos, il ne pourrait rien faire de lui-même si on le laissait seul. Ce qui veut dire que le pouvoir de l'homme, quoi qu'il n'en paraisse, et quoi que l'homme pense, surtout lorsqu'il commence à manier l'épée ou le bâton de la magie, l'homme a un très petit pouvoir, minuscule, ridicule. Et pourquoi est-ce qu'il détient ce petit pouvoir? Tout simplement parce que la nature de l'homme n'a pas été conçue pour être la nature du pouvoir. La nature de l'homme est d'être conscience et amour. Tandis que son frère, qui est l'ange, celui-là a été prévu pour être la nature du pouvoir. Et c'est pourquoi l'évolution de l'homme et l'évolution de l'ange passent par des initiations très différentes et des moyens de développement fort différents. L'un développe la conscience avec tout le degré d'amour que cela veut dire, malgré l'existence des sept rayons, et l'autre développe pleinement le pouvoir. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que l'homme sans l'ange ne peut pas exister. Autant que l'ange a besoin de l'homme pour être un tout complet, autant l'homme a besoin de l'ange pour articuler sur la terre une vie qui soit à peu près une. Ce qui veut dire que chaque homme a son ange. Et je ne révèle pas en ce sens, ou je ne reprends pas en ce sens les histoires de l'ange gardien, cela n'a rien à voir. L'ange gardien, c'est autre chose. C'est un ange beaucoup plus inférieur, qui n'est capable d'aucune décision, et c'est pour cela que bien souvent, il est incapable de protéger l'individu. Ce qui fait que malgré la présence de l'ange gardien, beaucoup d'individus se trouvent mêlés dans des situations qu'ils ne méritent pas, qui sont simplement la situation d'une société ou d'un groupe d'êtres humains ou tout simplement d'une famille. Le manque de protection qui vient de l'ange gardien se fait à cause de son manque de conscience, de son manque d'évolution. L'ange gardien n'est donc pas un ange évolué, c'est un ange inférieur qui évolue dans l'ombre de l'homme. Ce qui ne veut pas dire que l'homme fait toute l'évolution pour lui-même et pour l'ange qu'il a dans le dos. Il faut savoir que l'ange qu'il a dans le dos accomplit aussi en secret sa propre évolution, mais il est très en relation avec l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que d'autant plus que vous aurez une conscience développée, une conscience réveillée, d'autant plus vous allez réveiller votre ange gardien, ce qui fait que cet ange gardien va devenir de plus en plus puissant puisqu'il va réveiller son énergie. Lui, il est le pouvoir, vous êtes la conscience. Si vous réveillez votre conscience, l'éveil se transmet à l'ange qui réveille son pouvoir. Donc cet ange obtient de plus en plus de pouvoir et il vous en fait partager parce que là est son travail. Il ne peut rien éprouver pour lui-même, il n'a pas le droit de fonctionner uniquement pour lui-même. Il doit toujours fonctionner en jumelage avec un homme dont il a le destin de faire évoluer, de protéger. Ce qui veut dire que l'homme et l'ange sont très liés et que la vie de l'homme, la vie du Dieu intérieur, celui qui est dans l'homme, la vie de ce Dieu ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait l'homme et l'ange en un couple parfait. Et ce couple se prolonge jusqu'à la fin de l'évolution, jusqu'au moment où donc il n'est plus question d'évoluer, où l'évolution est suffisamment acquise pour pouvoir commencer à voler dans le cosmos librement. À ce moment-là, il se passe une intégration, une osmose absolue entre l'ange et l'homme. C'est-à-dire que l'homme intègre l'ange avec lequel il est né au premier jour. Et l'ange n'existe plus pour lui-même et de par lui-même, même si ce n'est qu'en frère jumeau. L'ange disparaît complètement pour se fondre à l'intérieur de l'homme. Lorsque ce mariage se déclenche, il faut savoir que l'homme en est à commencer les initiations solaires. Il ne s'agit donc pas des initiations terrestres. Et c'est pour cela qu'il n'y a que sur la terre que l'on parle autant des anges. Parce que c'est une affaire terrestre qui ne concerne que l'évolution terrestre. Quand je dis terrestre, je cite les planètes qui ont une évolution passant par l'incarnation des races. Dès qu'une humanité ou dès qu'un homme rejoint l'évolution solaire, cet homme ou cette humanité rencontre l'ange solaire, celui qu'on appelle aussi l'ange de la présence. Et si vous pouviez aller lire dans les livres de l'école du soleil, vous vous apercevriez qu'il n'est plus question de faire la différence entre l'homme et l'ange, mais que l'on parle tout simplement d'un superbe être aux ailes divines, c'est-à-dire aux axes d'énergie largement déployés, parce que c'est cela qui compose les ailes tant imaginées par les peintres et les poètes. Pourquoi est-ce que l'homme et l'ange vivent ensemble? Ils vivent ensemble tout simplement parce que lorsque l'étincelle de l'âme de l'homme est envoyée dans la matière, c'est une particule de conscience qui est envoyée dans une cave qui est noire, qui est humide, compacte, fermée. Le seul moyen pour être sûr que le miracle se produira, c'est-à-dire que l'évolution arrivera à amorcer sa ronde, et que donc cette étincelle va pouvoir sortir de la cave, le seul moyen pour que cela ait lieu, c'est de donner une petite touche de lumière dans le dos de cette particule de conscience. Donc, c'est d'envoyer un ange avec l'homme dans la cave. Ce qui veut dire que chaque homme a dans le dos sa contrepartie angélique. Et cet ange évolue avec l'homme. Lorsque vous êtes suffisamment évolué pour que votre ange le soit aussi, alors cet ange commence à régler toutes vos affaires et vous avez l'impression que c'est la présence du maître qui fait tout, que c'est la présence du maître qui vous a protégé dans tel cas, que c'est l'omniprésence du maître qui vous a dit de prononcer telle et telle phrase à tel moment. En fait, le maître n'y est pour rien. Le maître est très occupé à faire des méditations pour dynamiser les chakras de la terre d'un côté, ou pour développer un groupe humain de l'autre, ou pour faire des arcs d'énergie entre les nations ou entre les particules de l'éther pour que des mutations aient lieu dans l'humanité. Donc tout cela réclame énormément d'efforts, énormément de concentration. Le maître ne peut pas être avec son disciple constamment. Il peut donner une part de lui-même qui fait que, par exemple, comme une mèche de cheveux vous est offerte, et bien par là même, votre bien-aimé est en présence avec vous. Mais sa présence effective ne peut pas avoir lieu. Mais il faut cependant que le disciple soit protégé malgré l'absence du maître. Alors il y a pour cela un être magnifique qui peut être très doux ou qui peut être parfois très puissant, si bien que l'on peut le craindre. Et c'est l'ange. C'est lui qui va se mettre dans le dos de l'homme et regarder les événements qui ont lieu. Essayer d'amener l'homme à ne plus penser ceci ou à faire ceci. Le diriger à aller dans tel endroit, prévoir de faire ceci ou de faire cela. Et pour l'homme qui ignore par exemple la présence du maître parce qu'il n'aura jamais cherché le maître, celui-là pensera que c'est sa propre intuition qui fonctionne. C'est vrai que l'intuition de chaque homme peut créer des miracles. C'est un fait, il ne faut pas se dire, eh bien maintenant j'ai compris, c'est l'ange gardien qui fait tout et mon intuition n'y est pour rien. Non, il ne faut pas penser de la sorte. Car en fait, tout se fait dans un doux mélange. L'ange ne peut pas prendre de décision ou prendre de disposition si l'homme n'a pas développé un canal intuitif avec son âme. Donc, si l'homme ne commence pas à se comprendre et à se connaître lui-même, à pouvoir contempler à peu près son destin, à assumer ce destin et à savoir le poursuivre dans la vie. Tout simplement parce que le mot, l'ordre, dépend de l'homme. La décision dépend de l'homme. C'est l'homme qui mène la barque en quelque sorte et ce n'est pas l'ange. Cependant, lorsque l'homme a pris la décision d'aller dans une direction spirituelle, a pris la décision de se conformer à son destin, automatiquement l'ange reçoit cet ordre. Et c'est l'ange qui va ensuite, comme un ordinateur, continuer d'imposer cette information, cet ordre à l'homme, même lorsque l'homme semblera ne plus vouloir assumer cette spiritualité ou ce destin. Ce qui fait que de temps en temps, il semble que l'ange dirige l'homme, mais en fait, l'ange ne peut diriger l'homme que parce qu'il a reçu l'ordre de la part de l'homme de faire aller le destin dans ce sens-là et pas dans un autre. En fait, c'est un garde-fou. C'est un gardien. Il rappelle ce qui était bon, ce que l'âme avait conçu. Et il y a parfois un duel immense entre l'homme, qui par exemple refuse, ou qui pendant quelque temps vit une épreuve qui le fait retomber dans des eaux trop profanes. Il y a un combat immense entre l'ange et l'homme, cet homme qui justement pendant quelque temps chute un petit peu. Et l'homme se croit harcelé par sa propre âme, par sa propre conscience. Il a l'impression d'entendre des voix dans sa tête, qui lui rappelle ce qu'il doit faire. Alors il essaye de se boucher les oreilles, de ne plus rien entendre. Éventuellement, il sombre dans l'alcool ou dans le tabac excessif ou bien dans la chair. Il fait tout pour essayer de masquer ce qu'il appelle la voix. Mais ce n'est pas la voix de sa conscience, puisque sa conscience est voilée par son comportement profane, son comportement de chute. C'est la voix de l'ange qui lui rappelle et qui lui dit, mais souviens-toi, tu avais décidé que notre destin serait celui-là et pas un autre. Alors, comme je suis ton gardien, je te rappelle la chose et je t'interdis de toute ma force, je t'empêcherai d'aller t'abîmer dans d'autres eaux que celles de ton destin, de notre destin. Ce qui fait que l'ange, à ce moment-là, peut même, si son pouvoir a été suffisamment développé, peut même apparaître et rappeler à l'individu ce qu'il devait faire. Et c'est à ce moment-là que l'on parlera des visions, du message de Dieu, transmis par l'intermédiaire de l'ange, etc. Il faut croire qu'il y a un courrier très abondant entre le bon Dieu et ses disciples pour qu'il y ait une telle nuée d'anges qui est apparue à tous les prophètes ou à tous les inspirés. En fait, un ange, ce n'est pas un porteur de télégramme, comme on l'imagine si souvent lorsque l'on lit la Bible ou lorsque l'on écoute le récit de la vie des personnages qui ont été sanctifiés. Il n'y a pas Dieu d'un côté qui est assis sur son trône et qui se dit « Tiens, je veux aller parler à Marie, mais Marie ne m'entend pas, Marie est sur la terre, alors il me faut un facteur et c'est l'ange. » Et l'ange court dans tout l'univers jusqu'à atteindre Marie et il lui délivre le message. Et Marie lui répond 5 sur 5, tu peux retourner voir le Père et lui dire que c'est bien reçu. Si les choses se passaient de la sorte, on n'en finirait pas et il n'y aurait pas assez de facteurs, tout simplement. Et les anges se fatigueraient à être employés à une si basse besogne. Donc cela veut dire que l'ange n'est pas un facteur entre le bon Dieu et l'homme. Mais il est né avec l'homme, dans la matière que représente l'homme. Et il se déploie peu à peu, en même temps que se déploie la conscience de l'homme. Une fois que cette chose est atteinte, l'homme intègre l'ange avec lequel il est né. Et c'est à ce moment-là que l'homme lui-même devient une entité solaire. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné dans l'univers, il n'existe plus d'anges ou d'archanges avec tous les grands noms fameux qu'on leur connaît. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'anges qui sont créés pour être les gardiens des hommes et pour être l'étincelle qui participe à l'évolution de l'homme. Tandis qu'il existe d'autres anges qui gardent leur propre identité. Des anges qui sont donc une pure individualité. Ceux-ci ont un véritable travail dans l'univers, fort différent de celui d'être simplement un messager. Donc, il faut faire la différence entre les anges de lumière qui sont prévus pour vivre avec les hommes et les aider à évoluer. Et leur vie est courte, puisque un beau jour, l'ange réintègre l'homme, et vice-versa. Et il y a les autres anges, ceux qui ont leur propre voie d'évolution, ceux qui servent en fait à l'édification de l'univers, à la constitution même de certaines grandes entités cosmiques. Et ces anges-là ont un arbre d'évolution complètement différent de l'arbre d'évolution des hommes. On ne peut pas superposer ces deux arbres de vie, c'est impossible. Ce sont deux natures parallèles, deux univers parallèles. Cependant, c'est grâce à l'existence de ces deux natures-là que l'univers se maintient. Donc, comment faire lorsque vous entrez entre les deux colonnes? Comment faire pour faire un pas réellement spirituel et n'être pas simplement attiré par une lueur? Et comment cela se passe dans votre dos avec l'ange qui est votre gardien? Lorsque vous entrez entre les colonnes, il est attendu de vous que vous ayez conscience pleinement, quel que soit le temple digne ou indigne dans lequel vous entrez. Il est attendu de vous que vous viviez cela de par l'âme, comme si votre âme était reçue dans le temple de Dieu, ou dans le temple des maîtres, ou dans le temple du maître que vous préférez et dont vous chérissez le nom. Il faut vous transposer par l'esprit complètement au niveau de l'âme. Tous ceux qui ont vécu leur initiation d'entrer dans un temple, en étant tout simplement conscients de leur personnalité, peuvent demander que leur initiation soit refaite. Car tout simplement, elle n'aura eu aucun impact au niveau des corps subtils. Et ceci, quels que soient les mots de pouvoir utilisés pour l'initiation. Lorsque donc vous entrez dans le temple, il faut que cela soit conçu exactement comme le chevalier qui a l'impression de rentrer à l'endroit du temple où il pourra avoir la vision du Graal. Imaginez l'acte de soumission, l'acte de révérence, l'acte de silence que cela implique Vous ne pouvez pas simplement vous dire, ah ben voilà, je viens de mettre un pied dans le temple et si cela ne me convient pas, j'irai ailleurs. Vous ne pouvez pas non plus vous dire, voilà, une aventure martiniste ou une aventure en franc-maçonnerie qui commence ou une aventure chez les Rosicruciens qui commence. Vous n'entrez pas dans une confrérie ou dans une fraternité. Il faut absolument, quand vous rentrez dans un temple, renier le mot de fraternité. Bien qu'il y soit écrit, et bien que la fraternité existe, c'est un fait, mais il faut le renier. Il faudrait même cracher sur ce mot-là. Tout simplement parce que ce mot induit la psychologie de l'homme dans un comportement qui est aux antipodes de la spiritualité. L'homme se dit « j'entre dans une fraternité », alors il attend d'être aimé. Et s'il ne convient pas aux gens qui sont dans ce temple, alors il devient maussade, aigri, et il se dit « dans ce temple-là, on ne m'aime pas ». Alors il commence à ne plus être aussi plein de ferveur et d'amour durant le rituel. Et un jour même, il se retire de ce temple-là. Il attend encore que du fait qu'il pense au mot fraternité, il attend encore d'être, par exemple, célébré, que l'on pense à son anniversaire, ou que l'on remarque son retard afin qu'on le note et qu'on lui demande s'il n'est pas malade parce qu'il est en retard. Il attend que la famille soit cette fraternité et que cette fraternité joue le rôle de la famille. Famille qu'il a toujours idéalisée ou qui lui a manqué quand il était petit. Lorsque l'on pense donc au mot fraternité, il faut y penser tout autrement. Il ne faut pas voir un grand brasier composé par le cœur des frères. Et dans ce brasier, imaginez que l'on va s'y blottir comme un poussin qui attend d'éclore à l'intérieur de l'œuf. Quand vous imaginez fraternité, il faut au contraire imaginer ceci avec grande indépendance et avec une certaine froideur dans l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous ne devez imaginer le mot fraternité que dans la mesure où vous serez capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Et la fraternité, ce n'est que cela. La fraternité ne demande pas plus. Quand un maître parle de fraternité ou quand un initié vous rappelle la fraternité, il ne vous demande pas de vous précipiter sur votre voisin pour l'embrasser, lui apporter des tartes aux pommes ou des crèmes pour les mains ou pour les joues, de lui demander des millions de fois comment il va, de lui rappeler que vous l'aimez, de le serrer très fort. Un maître vous rappelle simplement la tolérance. Attention. Tu entres dans un endroit sacré. Chacun aura sa différence. Cependant, pour que le travail ait lieu, cependant, pour que tu puisses te faire aider de chacun de tes frères et que toi-même, tu puisses aussi aider chacun de tes frères, accepte chacun de tes frères et tu seras accepté. De ce fait, l'unité règnera. Et plus que l'amour fraternel qu'imaginent les hommes, l'amour de Dieu régnera dans un tel groupe. Accepte l'autre tel qu'il est. C'est cela la fraternité. C'est de tolérer qu'un frère, par exemple, se lève et ne dise pas la chose qui convient tout à fait. Eh bien, il faut savoir se taire et gentiment, doucement, avec amour et philosophie, corriger la pensée ou corriger le geste. Et il ne faut pas créer de petits groupes à l'intérieur du groupe, le groupe de ceux qui, par exemple, aiment Dieu avec le cœur et le groupe de ceux qui aiment Dieu avec la tête, en se disant, eh bien, on se tolère quand on est dans le rituel parce que sinon on n'est pas assez nombreux, chacun de notre côté, pour faire un temple. Alors il faut bien que nous soyons ensemble. Quand vous entrez dans un temple, pensez à cela. J'accepte l'autre. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, je l'accepte. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il n'arrivera pas à soulever en moi une vague de refus. Le refus de sa personne, le refus de sa parole, le refus de son geste. Simplement, je vais soumettre sa parole, son geste, sa personne. Je vais soumettre tout ceci à la philosophie qui est partagée dans ce temple. Et si quelque part il y a un écart entre son geste, sa parole et la philosophie, très humblement, je me permettrai de le lui rappeler et je lui demanderai d'essayer de retrouver ses esprits en appliquant la philosophie du groupe. Mais en aucune manière, je ne m'érigerai en disant « tu as tort ». En aucune manière, je le jugerai en disant « je ne supporte pas telle parole qui sort tout le temps de ta bouche ».